C'est l'histoire de Léna et de sa petite sœur Maëlle, deux petites filles originaires d'Haïti et placées dans une famille d'accueil québécoise blanche au cours des années 2000. Mais c'est aussi une histoire d'adoption et une histoire de quête d'identité et de repères, une histoire de famille et de déracinement, une histoire d'amour et de déchirement, bref, une célébration de la vie dans ses hauts et dans ses bas, à travers le regard innocent mais téméraire de jeunes enfants placés en famille d'accueil. Donc ce que je raconte ici, c'est le synopsis de la toute nouvelle web-série, Les Météorites, qui est disponible sur Tout TV et qui a surtout été orchestrée par la réalisatrice afroféministe Nadia Louis-Desmarchais, que l'on accueille en studio aujourd'hui. Bonjour Nadia.
Allô.
Les 10 épisodes sont sortis. Ils sont en ligne, ils sont là. C'est une histoire que vous avez longtemps portée en vous et qui est désormais lancée dans l'univers. Comment est-ce qu'on sent?
Comment je me sens? Honnêtement, c'est comme un mixed feeling. Mm-hmm. Un feeling vraiment doux, vraiment de fierté, puis de bonheur aussi, mais en même temps aussi un certain, puis si je suis très honnête, aussi un certain feeling de deuil. Hein. Tu dois toujours faire le deuil d'une œuvre quand elle quitte, elle quitte ton corps, tu sais, comme artiste. Donc c'est quand même spécial parce que, comme tu l'as dit, c'est un projet sur lequel... qui m'habite depuis 3 ans, puis qui m'a habité toute ma vie. Tu sais, ça reste quand même inspiré de ma propre histoire. Donc, de l'avoir complété, puis là, que ce soit sorti, c'est comme vraiment, vraiment excitant, mais en même temps un peu vertigineux.
Mmh. Et justement, vous venez de dire que cette histoire est inspirée de votre propre histoire. Moi, je l'ai comme senti dans la justesse, en fait, du scénario. Je me suis dit... Ça, c'est une fiction, oui, mais c'est une fiction qui a été vécue. Vraiment, c'est des mots qu'on est venu puiser en soi pour mettre sur le papier et à l'écran. Et je me demandais où finit l'histoire de Léna et Maëlle et où commence la vôtre.
C'est une bonne question, puis tu peux absolument me tutoyer. où finit l'histoire de Léna puis Maëlle? Je pense que ça revient aussi au processus même d'écriture de la série, parce que la série, dans le fond, moi, je l'ai écrite, puis je l'ai réalisée. Mm-hmm. Donc, je pense que dans l'écriture, mon histoire personnelle était très entremêlée avec celle des petites. Donc, j'ai vraiment, comme tout mon processus créatif, ça a beaucoup été de sortir beaucoup de souvenirs de mon enfance, que ce soit des souvenirs un peu flou, que j'arrivais pas nécessairement à savoir est-ce que c'est arrivé pour de vrai, est-ce que c'est pas arrivé. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça dans la mémoire traumatique. C'est comme difficile de savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé, qu'est-ce qui est peut-être quelque chose, un narratif que tu t'es raconté. Fait qu'il y avait beaucoup de comme aller vraiment genre excaver beaucoup de ces souvenirs-là que j'avais à l'intérieur de moi pour créer ces personnages-là, puis créer leur complicité et tout ça. Mais à partir du moment où c'était écrit, c'est un processus qui m'a pris 2 ans, vraiment c'est là que mon histoire à moi était un peu... terminé. C'est comme si c'était un moment de séparation, de protection aussi. Fait que c'est vraiment devenu, à partir du moment où j'ai réalisé le projet, qu'on est rentré dans toute la phase de casting, de production, de trouver les bons acteurs, de trouver les lieux, de tourner la série, que leur histoire à elles naissait. Mm-hmm. Puis les deux comédiennes qui ont fait la série, donc Anaïs Seuss et Evangeline Fénelon-Jean, elles ont vraiment comme embody les rôles, puis c'est devenu vraiment leur récit à elles. Mm-hmm. Donc, je dirais que c'est lié vraiment à la phase de scénarisation puis à la phase de réalisation que leur histoire a commencé.
Et ça a été quoi le déclic il y a 2 ans pour...
Pour faire ça?
C'est ça, pour se dire, OK, je vais écrire Les Météorites.
Ouais, c'était il y a 3 ans.
Il y a 3 ans, OK.
Quand même, c'était en 2021. Ça a commencé vraiment pendant la pandémie. Donc, pendant la pandémie, genre, j'avais comme commencé à sortir un peu d'un trop-plein de mon enfance. Puis, je me rendais compte qu'il y avait comme quelque chose de très précieux, même si ça pouvait être difficile, que ce soit tout le traitement des cheveux qu'on adresse dans la série, tout ça. Je commençais à sortir ces scènes-là de ma tête puis de mon cœur. Puis, je commençais à mettre ça ensemble, puis il y a une résidence artistique de Black on Black Films qui est sortie un peu comme un...
Un signe du destin.
Ouais, un signe du destin, parce qu'ils n'en ont pas refait après. C'était la seule fois qu'ils ont fait,
une
édition de série web, tu sais. Puis fait que j'ai appliqué, en fait, à ça, puis tout s'est enchaîné. J'ai fait la résidence pendant 4 mois. Fait que j'avais quand même pas le temps, en fait, de penser que je faisais ça. C'était juste automatique, ça sortait, j'écrivais la série, puis là, j'étais, genre, vraiment passionnée. Puis on a fini par appliquer à Tout.tv. Le projet a été pris en développement. Je l'ai écrit pendant 1 an. Ensuite de ça, on a été pris en production. Je l'ai écrit pendant une autre année, puis on l'a tourné. Mm. Fait que c'est maintenant que je me rends compte que je l'ai fait, genre, un peu.
D'où le mot d'œil que tu utilisais tout à l'heure.
Ouais, un peu.
Mm-hmm. Ouais. Et... Tu sais, comme tu le dis, ça a été un processus cathartique pour toi que tu réalises maintenant un peu un retardement, mais comme je le dis positivement. Je me demandais, est-ce que en puisant de l'intérieur pour faire ce récit, est-ce que ça t'a aidé à réaliser certaines choses par rapport à toi, par rapport à ton histoire, par rapport à ton identité?
Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Ben, à plein de niveaux, je pense que ça m'a... Tu sais, je pense que c'est ça qui est beau aussi du cinéma, de la télé, surtout comme un processus d'une série aussi grande que ça, c'est que tu as vraiment le temps de t'installer avec tes personnages, avec tes thématiques. J'avais le temps d'aller adresser autant l'appartenance, qui est une question très difficile. Donc, quand tu es une enfant noire qui grandit dans une famille blanche, cette appartenance-là, elle va faire en sorte que ta famille d'adoption, c'est ta famille à toi. Mais en même temps, tu as une allégeance à ta famille biologique, puis c'est toutes tes racines identitaires, culturelles qui sont là. Fait que juste cette question de la double allégeance, la double appartenance, c'était une thématique que j'ai été capable de vraiment creuser. Puis je me suis pardonné aussi plusieurs choses en faisant la série. Mm-hmm. C'est comme s'il y avait des scènes, ce qui ça reste la fiction, il y a des scènes que j'ai été capable d'écrire qui ne se sont pas nécessairement produites, mais que je me suis dit, ah, qu'est-ce qui serait arrivé si ça s'était produit? Mm. Puis c'est comme si le fait de l'avoir écrit, ça l'a tellement matérialisé que j'ai pu être en paix avec certaines affaires qui se sont pas produites, par exemple. Mm. C'est un peu flou, mais quand tu vois la série, je pense que tu comprends un peu toute la quête de la mère biologique et tout. Donc, il y a comme quelque chose de très... comme que t'écris quelque chose qui pourrait s'être passé pour de vrai. Et après ça, il y a toute la question aussi raciale. Et la petite Léna à l'école qui suit de la discrimination, qui voudrait tellement être blanche. Donc, tu sais, c'est tout ça aussi de se pardonner de, quand t'es enfant, c'est pas quelque chose duquel t'es nécessairement fière d'être noire, donc de se pardonner ça aussi. Mm-hmm. Puis en même temps, toute la solidarité puis la résilience de ces enfants-là. C'est comme si longtemps, mon narratif de vie, ça l'a tellement été comme, je suis enfant de la DPJ. Et tout le monde trouve que c'est comme un... quelque chose de tellement victimisant. Puis je me rendais compte, mais en fait, ça m'a donné aussi genre une grande force. Puis ça fait en sorte que comme, ça a construit la femme que je suis aujourd'hui. Donc ça, la série a vraiment permis de comme... tisser toutes ces choses-là, nouvelles pour moi, de voir ça différemment.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de pathos quand on parle de la DPJ, parce que, petite révélation, Palina, tu le sais déjà, mais comme j'ai été placée pendant un an, donc c'est tout de suite le sujet principal des météorites, c'est tout de suite quelque chose qui est venu me chercher encore intérieurement, mais comme me chercher dans le sens healing du terme. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de filet de sécurité lumineux. On aborde des sujets qui sont dramatiques, on aborde, comme j'ai dit, la DPJ, on aborde le déchirement familial, l'adoption, le placement, donc comme c'est... des sujets fun, des sujets joyeux, mais il y a toujours comme une lumière au bout du tunnel qui persiste. Et j'ai vraiment trouvé ça beau et je me demandais, est-ce que ça s'est juste fait comme ça ou est-ce que tu tenais vraiment à ce que pour une fois, ces sujets-là ne soient pas juste traités avec juste de la noirceur?
Mm-hmm. Mais je trouve ça fou que tu dises ça parce que moi, ce que je trouve beau de cette série-là, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me dire, moi aussi, genre, j'ai été à la DPJ. Puis c'est comme ça l'ouvre cette porte-là de comme... d'expériences communes, qu'autrement, on dirait qu'on cache ça. Chaque personne qui a été à la DPJ, c'est pas nécessairement le truc le plus de fierté qui vont disclaimer en public, tu sais.
Mais, tu sais, je suis en train de réaliser ça en live, mais pour moi, c'est neutre, ça fait juste partie de mon histoire. Comme c'est sûr que ça m'a peut-être donné une sorte de résilience que d'autres personnes n'auraient pas, mais c'est comme, je pose aucun regard ni bon ni mauvais dessus, ça s'est juste passé. Puis c'est sûr que les gens s'attendent à ce que je déballe une histoire déchirante, mais ils sont toujours déçus par le témoignage. Donc c'est vraiment ça que j'ai aimé dans Les Météorites, c'est que c'est pas... On n'est pas dans quelque chose de noir, enfin de noir, si. Ouais. On est pas dans quelque chose de sombre tout le temps.
Ouais. Mais puis c'était absolument dans mes préoccupations principales puis premières. Mm-hmm. En fait, mes premières motivations à faire cette série-là, c'est que je me disais, moi, j'ai vraiment envie de casser le narratif que toutes les personnes qui sont de la DPJ, c'est des personnes qui sont des victimes, qui ont vécu une expérience vraiment traumatique, vraiment difficile, puis qui comme ont un peu... on n'a pas vraiment le droit de rêver non plus, tu sais. Donc, c'était comme vraiment important pour moi d'offrir un nouveau prisme. Parce que même en grandissant, genre, les seuls films que je voyais, c'était genre enfants de la... je veux pas nécessairement throw shade, là, à d'autres projets, mais des documentaires très comme sensationnalistes québécois, genre, qui se faisaient sur les enfants de la DPJ qui étaient maltraités, qui étaient battus. C'est aussi la seule chose qu'on voit dans les médias, les couvertures médiatiques, c'est encore des scandales d'enfants. Mm-hmm. Puis il y a énormément d'abus, c'est sûr. Mm-hmm. Mais il y a aussi des histoires de familles.
Ça.
Puis de familles d'accueil. Puis moi, je me disais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'accueil où est-ce que j'en suis ressortie avec quand même beaucoup d'amour, malgré toutes les failles. Mm-hmm. cette famille-là qui, dans laquelle j'ai grandi, cette famille d'accueil-là, ben, c'est une famille comme les autres qui a ses bons coups puis ses mauvais coups. Puis c'était important qu'on garde la lumière. Puis longtemps, même dans l'écriture, c'était difficile pour moi de finir la série parce que je la finissais trop avec un ton qui était comme... Tu sais, j'adresse beaucoup d'enjeux qui sont difficiles, dont déchirement familial et tout. Fait que j'étais comme, OK, non, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de la lumière. Mm-hmm. Je revenais toujours à ça. C'était comme vraiment mon fil rouge. C'est comme, il faut que je revienne à cette lumière-là, à cette empathie-là puis cette bienveillance-là. Puis c'est pour ça que la série, elle termine de la façon qu'elle termine, avec la solidarité. Puis tu te rends compte qu'à travers même les difficultés, bien, cette famille d'accueil-là, elle se tient envers et contre tous, tu sais.
Et il y a vraiment un concentré de talent qui est absolument incroyable dans le casting. Mais je dois dire que Heaven Jane, Fénelon Jean et puis Anaïs Seyus, donc qui jouent les sœurs Léna et Mel dans la série, bah, elles crèvent absolument l'écran. Et je me demandais comment ça se passe au casting pour trouver des actrices aussi jeunes qui incarneraient aussi bien les personnages, mais aussi l'esprit que tu voulais donner à cette série.
Oui, vraiment, ces deux actrices-là, premièrement, c'est leur premier rôle. Donc, la majorité des enfants dans la série, donc c'est une famille de 5 enfants. Mm-hmm. Et les 4 enfants les plus jeunes, c'est tous des premiers rôles pour eux. Donc, c'est leur première expérience en cinéma et télé à jouer. Premièrement, pour le casting, je vais vraiment saluer ma directrice de casting, Marie-Charlotte Aubin. C'est une femme qui est une femme blanche, une alliée, qui va vraiment chercher hors des boîtes pour aller trouver des personnes de la diversité, des personnes de couleur qui ont peut-être même pas jamais joué, mais qu'elle sait qu'elle va les amener en audition pour que ben, la réalisatrice elle les voit. Donc ça a été un gros travail déjà de première approche de ma directrice de casting. Puis moi, vraiment, quand je suis arrivée en audition, mettons, Heaven Jane, c'était une petite fille que moi, j'avais même vue dans mes premiers documents de préparation. J'étais tombée sur sa photo une agence de casting, puis genre, j'avais arrêté tout ce que je faisais. Puis comme je l'avais mis dans mon document de casting, puis j'étais comme, OK, il faut qu'on l'ait en audition, genre cette petite-là. Il y avait quelque chose dans ses yeux, il y avait quelque chose de comme une innocence, mais comme une force dans son regard. Oui. Puis cette comédienne-là, elle est tellement joueuse, mais en même temps, elle a une grande confiance en elle, puis elle aime ça, toutes les nuances de jouer. Donc, elle était comme vraiment sérieuse dans son approche, même si elle a 7 ans. Elle était super sérieuse
dans son approche. C'est ça qui était vraiment impressionnant, oui.
Puis sa sœur, Anaïs, aussi, c'est que j'avais envie que les deux sœurs, ce soit vraiment comme les deux côtés d'une médaille. Donc, Anaïs, elle avait quelque chose de comme très sérieux, même si elle avait 9 ans au moment où on a fait les auditions, 10 ans qu'on a tourné. Elle avait comme quelque chose de très protecteur, de très aussi comme évoluée, puis comme est très sérieuse aussi. Puis, tu sais, le fait que c'était mon histoire personnelle aussi, c'est deux... Mais tous les enfants sur la série, mais particulièrement Anaïs, elle venait souvent me voir sur le plateau, puis elle avait comme... Elle prenait ça tellement à cœur, parce qu'elle était comme, mais là, genre, c'est quelque chose que t'as vécu, puis comme on veut vraiment bien le représenter, puis j'étais comme, mais t'as 10 ans, genre! Fait qu'elles ont vraiment comme... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose de magique qui s'est passé, puis ces deux petites-là... Moi, j'ai hâte qu'elles soient partout au Québec, parce qu'elles sont formidables, puis le jeu dans la série a été... vraiment, vraiment essentiel. Tu sais, la série, tu tournes ça vraiment rapidement. Puis les enfants, ils ont été tellement professionnels. Mm-hmm. Puis aussi, merci à ma coach de jeu, Félix Ross, qui a aussi aidé à tourner avec plein d'enfants qui n'avaient jamais joué comme ça au cinéma. Tu sais. Donc, ça l'a vraiment aidé.
Mm-hmm. Et c'est des épisodes de 15 minutes. Moi, je me demandais comment est-ce qu'on réussit à concentrer déjà toutes tes idées, mais à les concentrer de façon... pertinente et vraiment, il y a vraiment quelque chose de très efficace qui se passe dans ces 15 minutes. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça en 15 minutes?
Ben, déjà, par rapport à la construction de chaque épisode, moi, j'avais envie d'avoir du plaisir en écrivant la série puis en la réalisant. Puis moi-même, comme spectatrice, j'aime ça, des séries où est-ce que chaque scène comme t'apporte quelque chose qui t'amène à la prochaine, puis t'es intriguée, il y a plusieurs personnages, c'est une série chorale. Fait que déjà, dans la structure, chaque épisode commence avec un retour en arrière. Donc là, ça te donne un peu d'informations sur l'histoire des personnages principaux. Donc, tout au long de la série, le spectateur est comme engagé à essayer de comme créer les morceaux du puzzle. Oui. Ah, OK, ça, c'est l'histoire d'Alexa. Ah, ça, c'est l'histoire de Léna puis Maëlle. C'est pour ça qu'elles ont été placées. Mais tu sais, rien est chronologique, tu sais. Donc, tout est comme... Vraiment, tu travailles en écoutant la série. Fait que ça engage le spectateur. Mm-hmm. Puis c'est vraiment quelque chose que je voulais, moi. Puis je voulais aussi que, comme à la fin de chaque épisode, ben, t'aies eu quand même une idée des trois trames principales. Fait que l'histoire de Léna Maëlle, l'histoire d'Alexa, l'aînée de la famille, puis l'histoire des parents. Donc, pourquoi ils sont devenus famille d'accueil, puis comment ils essaient de gérer cette famille-là du mieux qu'ils peuvent. Mm-hmm. Donc, je pense que ça l'engage le spectateur. Puis, tu sais... Honnêtement, à l'écriture, j'ai écrit des versions et des versions et des versions et des versions
pour que
ce soit comme la meilleure version, celle qu'on allait tourner.
Mais est-ce qu'il y a des choses encore qui restent? Est-ce que t'as pas été frustrée de tout faire rentrer dans un quart d'heure?
Ben j'ai dû couper tellement de choses. J'ai dû couper tellement de scènes.
Ça fait partie du jeu.
Tu sais, ça fait partie du jeu. Puis même honnêtement, genre 3 semaines avant de tourner, genre mon assistant réalisateur, tu sais, il disait comme Nadia, genre je sais que ta série est vraiment ambitieuse puis tout, mais on serait jamais capable de la tourner. Mm. Fait que comme faut que t'enlèves des scènes. Puis j'étais genre mais non, je peux pas enlever des scènes. On tourne dans 3 semaines. Genre tout le monde a appris les textes. Mais aussi, tu te rends compte, OK, on est dans un format. Puis déjà, j'étais très ambitieux de faire 10 épisodes de 15 minutes. Genre, je suis allée au-delà de ce qui se fait en général. En général, c'est peut-être 8 épisodes de 10 minutes. Moi, c'est genre 10 épisodes de 15 minutes. Fait que, tu sais, déjà, genre, c'était très ambitieux avec beaucoup d'enfants, des lieux. Donc, j'étais comme, OK, si je veux être capable d'avoir la qualité qui est le résultat maintenant de la série, il faut que je fasse des compromis. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'il y a des scènes qui sont parties, auxquelles je tiens. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus.
L'essentiel est resté.
OK.
Tu as 27 ans. Et je vais dérouler ton CV parce qu'il m'impressionne. Tu as un parcours qui littéralement m'impressionne. En 2021, tu as eu un bac en cinématographie et production de films à l'UQAM. Pendant tes études, tu as sorti le court-métrage Dors-tu? Puis il y a eu d'autres courts-métrages documentaires entre-temps, donc Raconte-moi mon corps, Urban, et puis bien sûr Rated X, qui a été sélectionné au Festival Regard, au Festival Filmiste, aussi au Rendez-vous Québec Cinéma. 2021, meilleur espoir documentaire par la chaire René Malo à l'UQAM. En 2023 et en 2024, t'es finaliste catégorie cinéaste de l'année au Cala Dynasty, ce n'est pas fini. Février 2024, il y a eu les météorites. C'est quoi finalement ce feu qui t'anime? Comment est-ce que tu décrirais cette fureur créative?
Waouh, ben c'est sûr qu'il est dit comme ça, ça fait
c'est impressionnant.
Ça fait beaucoup.
Et encore j'ai enlevé certaines choses.
Non, je t'ai pas tout nommé, mais ben le feu, ben je pense que tu l'as bien décrit là, j'ai un feu qui m'anime qui est aussi plus fort que moi. Mm. Genre je pense qu'il y a comme quelque chose où est-ce que c'est tous les projets que j'ai faits, je me suis jamais dit OK là, c'est un de plus. Genre on dirait que c'est toujours vraiment dans une nécessité de raconter, de me raconter. Je pense aussi de sortir de l'école, je me rendais compte OK, le manque aussi de visibilité d'histoires comme les miennes que je voyais aussi dans l'industrie dans laquelle j'allais me lancer dedans. Donc j'avais comme aussi une soif de comme OK, en fait, j'ai envie de créer, puis j'ai envie de sortir tout ça de mon système. Puis rapidement les opportunités sont arrivées, je pense que le fait que j'étais vraiment dédiée à cette profession-là, de réaliser puis de faire des projets qui étaient importants pour moi, mais je pense que ça a attiré aussi les bonnes personnes. Puis ouais, mais je pense que je suis vraiment habitée par ce feu-là, puis c'est ça qui me guide aussi. Si j'ai pas genre cette espèce d'impulsion très forte qui m'attire envers un projet, je le fais pas, tu sais. Puis tu sais, je suis vraiment vraiment honorée d'être nominée encore une année au Gala Dynasty. Moi, c'est un des événements que je trouve les plus importants au Québec, qui moi-même d'être vue puis d'être acceptée par ma communauté puis que ma communauté se reconnaisse dans mes projets, étant une enfant adoptée, c'est comme pour moi c'est genre le plus grand rêve là, honnêtement. Donc je prends jamais ça pour acquis, puis je pense qu'il faut juste continuer de se battre pour nos projets, puis c'est important.
Et tu te définis comme un vecteur créatif pour ceux et celles que l'on refuse souvent d'entendre. Et donc, bon, peut-être que ce que je vais demander est encore confidentiel, mais je vais faire ma journaliste et le demander quand même. C'est quoi les prochaines voix oubliées, ignorées auxquelles tu t'apprêtes à donner la parole pour ton prochain projet?
Qui est très intéressant.
Entre toi et moi.
Okay, je vais dire des petits scoops, peut-être. Mm-hmm. Mais déjà, ce projet-là, ça fait plusieurs années que je suis en train de l'écrire, de faire des recherches pour ça. Donc, j'ai un long métrage documentaire qui s'appelle Composé, mais que le titre va changer. Donc, je ne vais pas dire le titre parce que ce serait vraiment, vraiment du spoil.
On respecte.
Mais dans le fond, ça, c'est un film qui va vraiment questionner toute la question du métissage. Donc, toute l'aliénation qui vient avec le fait d'être une femme métisse, mais aussi toute le réseau de solidarité qui se crée entre femmes métisses. C'est comme une expérience un peu unique au sein même de la communauté noire. Donc ça, c'est un long métrage documentaire. Ça fait 6 ans que je travaille dessus. Puis là, j'entre officiellement en tournage en avril puis en mai. Donc, je suis avec Pimiento Productions pour ça. Fait que ça va être comme vraiment un gros, gros projet qui est quand même en continuité avec les météorites. Donc, qui adresse des enjeux d'identité, d'appartenance, de besoin d'être vue. Puis il y a un autre projet que je développe avec Daniela Mujica, qui est un film, un long métrage de fiction sur la migration, donc sur les enjeux migratoires contemporains, puis sur la résistance, puis la solidarité entre des bénévoles, puis des personnes migrantes. Donc ça, c'est un film que, ouais, qui s'éloigne un peu de mon expérience personnelle, comme les météorites, mais qui est toujours avec le même moteur d'empathie puis de connexion avec l'autre.
Ce serait ton fil rouge pour définir...
Oui, je pense que oui.
Ouais. OK, c'est un beau fil rouge. Et dernière question, c'est une question qui concernerait les météorites et puis comme tu sais, tout ton portfolio finalement. Ce serait quoi ta mission? C'est une question large, je vais la resserrer. Avec quoi est-ce que tu aimerais que les gens qui regardent tes documentaires, qui regardent tes séries, qui regardent tes courts-métrages, avec quoi tu voudrais qu'ils ressortent?
Je pense que quelque chose qui est comme vraiment beau en cinéma, puis en télé, puis n'importe quel projet où est-ce que quelqu'un a la liberté de comme consommer cette œuvre-là dans comme chez soi, seul, c'est que je pense que tu as vraiment... Puis ça vient avec une grande responsabilité, mais tu rentres vraiment comme dans la tête des gens, puis dans leur vie, tu sais, l'espace de ton projet, tu sais, que ce soit un court-métrage de 15 minutes. Pour 15 minutes, la personne, elle a comme vraiment accès à ton expérience de vie. Puis c'est pour ça que je dis souvent que les projets que je fais, ben, je donne la voix à des personnes qu'on entend moins. C'est que pour vraiment 15 minutes, que tu viennes de nos communautés ou pas, tu as vraiment la possibilité de vivre l'expérience de nos vies comme si tu en faisais partie. Puis je pense que ça permet aussi aux gens de comme avoir une responsabilité suite à ça. Et connaissent plus d'histoires humaines dans ces communautés-là, sont capables d'humaniser des enjeux vraiment grands comme le racisme, la discrimination systémique, l'exploitation des femmes. T'sais, il y a comme énormément de thématiques dans mon travail que je me dis, ben, si la personne, elle est vraiment comme assez plongée dans l'univers pendant tout ce temps-là, ben, c'est sûr qu'elle en ressort changée, puis qu'elle en ressort avec peut-être des clés de compréhension nouvelles pour être peut-être un meilleur citoyen. Mais fait que je pense que c'est peut-être un peu ma mission personnel, mais c'est une grosse mission, mais je me dis, si chacun de mes projets, il peut-être change un petit peu la perception de quelqu'un par rapport à nos récits, ben c'est une personne de plus. T'sais.
Les météorites première saison, donc les 10 épisodes sont disponibles en ligne et en visionnement libre sur le site Tout.tv. Courez-y, ne marchez pas parce que vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Nadia Louis Desmarchés d'être venue nous en parler.
Néo-Québec, c'est rafraîchissant.